Radio Liberté 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire, 89.
Par hasard, ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes sans se connaître. On s'est aimé, même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Nous allons vieillir chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le fourneau, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Que je m'en fiche. Que je m'en fiche.
Léo Ferré, quand est-ce que vous avez approché un piano, alors, pour la première fois, d'une façon comme ça, un peu...
Ma sœur avait un piano, parce que mon père lui faisait étudier le piano. Alors, moi, de temps en temps, j'allais un peu voir, comme ça, juste à côté. Et puis, j'ai appris le piano, comme ça, un peu au collège, parce qu'il y avait une femme qui venait 2 fois par semaine donner une leçon pendant une demi-heure, et puis on n'apprenait pas, donc ça ne servait à rien, quoi. Mais je n'étais pas un pianiste, alors... Je suis pianiste pour moi, non.
Vous pensez que vous n'êtes pas un pianiste?
Non, je ne suis pas pianiste, non. Pianiste, c'est... Il travaille 8 heures. Hein.
Oui, mais quand on vous voit jouer, quand on vous entend jouer, parce que je vous ai vu aussi jouer vos mains, eh bien, vous êtes un pianiste, parce que vous avez ça dans la peau. C'est plus important.
Je ne sais pas, mais il me manque. Je ne travaille jamais, vous comprenez?
Oui.
Je ne travaille pas, non.
Mais
même
si
la
vous
voix.
Pas.
Vous savez, moi, j'ai de la voix. Je disais tout à l'heure à Marie, hein. J'ai dit, tu vois, Et longtemps que je lui dis, si je faisais tous les jours un peu, 5 minutes des vocalises, j'aurais beaucoup moins de peine. J'ai pas de peine à chanter, mais ce serait mieux fait aussi, parce que c'est pas toujours terrible, hein, moi je le sais. Hein. Mais non, vous comprenez, si vous me faites faire ça, obligé tous les jours,
tout
si
vous me faites pas.
Eh non, je fais pas, parce que obligé, je fais rien, quoi. Oui.
Cerny que j'avais sur le dos et la demoiselle au leçon de piano, son piano, le son piano, son piano. Et l'aïda de Monsieur Verdi arrangé par un mal appris de piano, pris de piano, pris de piano. J'ai dans la peau, après Czerny, c'est rigolo, 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 rigolo. Et le boléro de Monsieur Ravel réduit à la portion de Pleyel, son de Pleyel, son de Pleyel. Notre piano, votre piano, leur piano. Si vous croyez qu'on joue à l'œil, vous vous mettez le doigt dans notre piano, votre piano, leur piano. En 45, Béla Bartok est mort à New York, mort de faim. Piano, fin de piano, fin de piano.
Il y a des choses qui ne vieillissent pas, là, non seulement dans ce que vous avez écrit, mais ce que vous avez chanté. Je pense à Pauvre Rudebeuf.
Oui.
Non seulement ça date, mais ça dure.
Oui, mais alors Pauvre Rudebeuf, vous savez, moi j'ai fait connaître, c'est un type de l'université en France qui a dit si Ferré n'avait pas écrit la musique là, Rudebeuf, bon, c'est un compliment qui, je sais pas, ça n'avait pas l'air d'un compliment d'ailleurs ce qu'il disait. J'ai fait connaître Rudebeuf, c'est pas pour ça d'ailleurs. J'avais lu La pauvreté rue de Boeuf dans les poésies de ce poète. C'est pour ça que j'ai appelé ça Pauvre rue de Boeuf. Il m'est arrivé une aventure, une chose extraordinaire. Moi j'allais le matin, j'étais sur la frontière de Neuilly, Paris-Neuilly, porte-maillot, et le soir j'allais chanter. Le matin, je me levais, j'allais prendre mon tabac, le journal, le pain qu'il fallait. Un jour, j'arrive sur cette place, là où il y avait les magasins, je vois un gros camion. Alors, je passe à côté, et le type qui était le camionneur ouvre la portière. Il me dit, dis donc Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la télévision? Je vous l'ai déjà raconté, vous savez.
Vous l'avez raconté au spectacle?
Oui, je la raconte au spectacle parce que ça fait connaître aux gens. Alors j'ai dit tout de suite, je me suis bien empêché de rectifier. Et je me suis dit, c'est ça la culture. Ça s'apprend tout seul dans un coin comme ça. Alors il y avait un type là qui était de l'université. Je dis, c'est pas l'université, c'est autre chose. L'autre soir qui a fait beau beau, j'ai dit oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça.
Et qui s'appelle Bœuf ou Rutebeuf, ça n'a pas plus d'importance.
Mais il a su ça, sûrement. Un jour, il a réécouté, il a dû se dire, tiens, j'ai dit le pauvre bœuf, je me suis trompé, il s'appelait Rutebeuf. Voilà, c'est ça. Et je suis content d'avoir écrit ça parce que, allez savoir comment, je me souviens. J'avais une grève de musiciens et j'avais été enregistrer ça. Alors j'ai chanté ça au piano et puis après j'ai, avec l'orgue électrique, j'ai fait ce contre-chant. Et c'est parce que ces musiciens ont fait la grève que j'ai trouvé ce contre-chant. Sinon j'aurais fait autre chose. C'est drôle ça. Alors merci les grévistes. Merci les musiciens qui m'ont laissé tomber comme ça ce jour-là.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire et pauvre rente. Et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Le
Rimbaud a fait éditer à compte d'auteur, donc il a payé La saison en enfer à 500 exemplaires. Il les a mis sous dans une cabane sur la terre, comme ça, une espèce de cave, et il a rien, il a dédicacé à Verlaine. Bon. Et ce truc-là a été acheté, je sais pas, il a été reçu par un président du Conseil d'État français. Je me souviens jamais de son nom, d'ailleurs ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je te dis tout de suite, tu vas savoir qui est-ce. C'est un type qui a été assassiné en même temps que le roi de Yougoslavie à Marseille. Il était dans l'auto-découverte, là. Et ben alors, ce type avait trouvé, il a trouvé la saison en enfer. Il avait plus que 180 qui étaient possibles. Les autres étaient toutes dégueulasses, hein, toutes saloperies. Alors, il est allé voir ce président, là, en lui disant, voilà, j'ai trouvé 180, 200 livres de la saison en enfer. Qu'est-ce que je fais, monsieur le ministre? Et tu sais ce qu'il lui a répondu, le type? Brûlez-les. Voilà.
La mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, il pourtant des tics noirs, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux teintures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Sur le soir, à la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sous la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire, et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane, il s'aidait de journaux illustrés ou rouges, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon et par elle meurtrie des poings et des talons remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Les blafards dimanche de décembre où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noirs en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en trois roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les fous. Rêvait la prairie amoureuse où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. De lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs, de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrue et pressentant violemment la voix.
Je me sens proche de tous ces grands poètes, bien sûr. Enfin, quand je pense que c'est Valéry lui-même qui le raconte, il était au Luxembourg, il raconte qu'il voyait monter Verlaine avec sa canne et puis sa jambe qui traînait un peu comme ça, qui allait au café là pour boire
l'absinthe.
Et c'était vrai. Et il le raconte dans ce qui s'appelle Variété. Et quelqu'un m'a dit un jour, tu vois, Valéry, t'es bien, il parle de Verlaine. J'ai dit oui, mais il a pas traversé pour aller lui dire bonjour. Hein? Comment est-ce possible ça? Voilà. Il a fini l'Académie française.
De la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle. Jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lent par la route, un peu des écoliers chez moi, chez nous plutôt, y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de
maintenant, il faudrait que je vous raconte une histoire. C'est la vérité. Les gens ne savent pas. Vous savez, parce qu'on passe à côté des choses. Et les choses vraies s'ennuient des gens qui sont installés, vous savez, dans les prix littéraires, dans les académies, dans les trucs comme ça. Je vais vous dire une chose, parce que Baudelaire m'a indiqué ça. Et il m'a fait... il m'a dit, je cherche mon truc, parce que ça, c'est difficile. Voilà, ça arrive. Il m'a dit, tu devrais chanter ça. Et puis, il m'a fait connaître une femme extraordinaire sur tous les plans. Au début, c'était extraordinaire. On ne pouvait pas savoir ce que c'était, cette femme. Ah ! Et puis, à la fin, tu vas voir. Les métamorphoses du vampire. Mais je voudrais vous dire avant que Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal en 1857. Trois mois après, au mois d'août 1857, il y avait eu un jugement qui a expurgé, remarquez bien le nom, hein, expurgé le livre de poésie de six poésies vraisemblablement cochonnes, n'est-ce pas, hein, cochonnes. Et en 1861, sont parues Les Fleurs du Mal, expurgées. Eh bien, il y a une chose formidable qu'il faut que vous sachiez. Puis, racontez-la aux gens qui... On connaît des tas de cyclistes, des petits qui font les courses en auto, tout ça. On peut leur raconter aussi l'histoire de Baudelaire. C'est intéressant, ça, non? Bon. Et alors, imaginez-vous que... attendez, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que... Oui, forcément, le... Oui. Ah! Le jugement de 1857 a été, après l'appel, je suppose, là, cassé. Eh oui, vous savez en quelle année? En 1949. Vous comprenez? Les juges, ils font peut-être des cochonneries chez eux, mais ils n'aiment pas les cochonneries. Enfin, ce qu'ils prétendent être la cochonnerie, quoi. C'est dégueulasse. Et il y a deux ans, paraissait chaque semaine un opuscule qui s'appelait Les Grands Écrivains. Il y avait Balzac, Colette, j'en ai acheté quelques-uns. Et un jour est paru Baudelaire, cinq mois après ou six mois. Avec, alors il y avait un opuscule qui racontait la vie. Pour Balzac, il y avait Père Goriot, puis les écrivains, il y avait toujours un petit bouquin à accrocher, vous savez. Ça se vendait le jour avec François et tout ça, quoi. Hein, bon, le samedi, quoi. Et alors, imaginez-vous que j'ai pris Les Fleurs du Mal. J'ai cherché, moi. Forcément, ça m'intéresse. J'ai cherché les poésies cochonnes. Hein? Eh bien, ils n'y sont pas. Formidable. Et il faut que vous sachiez aussi que ces éditions, tout ça, ce service pour la littérature, a été sous l'égide de l'Académie Goncourt. Voilà. Les métamorphoses du vampire. Femme cependant dans sa bouche de fraise en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busc laissait couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi
j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Ouais. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles.
Je suis, mon cher savant, si docte volupté, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. Ouais. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant, toute pleine de pus. Je fermais mes deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une traîne de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver.
...1937, Espagne, la guerre. Je m'étais intéressé immédiatement à ça parce que il y a un type que je ne pouvais pas supporter, c'était le Codillo, cette espèce de sale gueule abominable, qui s'appelait Franco. Et moi, je n'allais pas en Espagne, parce que, je ne sais pas, je voulais être libre. Et puis, j'avais beaucoup d'amour, sans y avoir jamais été, pour Barcelone, qui était la ville des anarchistes, enfin. Hein. Et les Espagnols exilés à Paris, je les ai connus, et ils m'avaient demandé d'aller chanter pour eux. Et c'est comme ça que j'ai fait la chanson qu'ils appellent le flamenco de Paris. Et ça, c'était extraordinaire. Fantastique. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai épousé une Espagnole. Marie. Christy. Que j'aime.
Que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrais l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Ah, ah. Thank you. que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'espagnol, de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur mes lèvres.
Après l'expérience théâtrale de l'Opéra des Rats, puisque tu as créé au Tourski l'Opéra des Rats, est-ce que tu envisages d'écrire encore pour le théâtre?
Je ne sais pas, mais je voudrais, surtout avec toi, je voudrais mettre quelque chose au point. J'ai lu dans les journaux des fois, parce que bon, j'avais écrit l'Opéra des Rats. Moi, je n'ai pas écrit l'Opéra des Rats. C'est toi l'auteur de l'Opéra des Rats. Tu es venu me voir un été il y a 2 ans. Et tu m'as dit, voilà Léo, j'ai fait ça, etc. Tu m'as fait voir ta pièce. Il me dit, est-ce que tu pourrais faire le dialogue? Je t'ai dit, bah écoute, j'ai jamais fait ça. Je vais essayer. C'est-à-dire que tu étais un auteur de théâtre et tu agissais comme on agit au cinéma. Tu as demandé à quelqu'un d'écrire le dialogue. Je l'ai fait, tu étais là. Et puis après, tu es parti avec le texte. Demandé ça, je suis allé un soir au théâtre Tourski à Marseille. Je dis bien théâtre Tourski à Marseille. Je parle pas ni de l'opéra ni de l'autre là, il s'appelle, je sais plus. Le théâtre Tourski. Faut avoir l'œil dessus quand même et le cœur aussi. Alors je suis allé un soir et j'ai vu ta pièce de théâtre qui s'appelle l'Opéra des Rats avec mes dialogues. Voilà, je voulais mettre le point là-dessus. Voilà.
La mer est allée chercher fortune. Là-bas, sous le jupon de la lune, et moi, qui ne suis qu'un pauvre oiseau. Mouette ou goéland gigolo, je crie qu'elle revienne bientôt, mouillée tous ces calmes matelots, figés dans leur statut de bâton, tout gris de la marée de tantôt. Tabac, je suis de la sécurité, je paie pas d'impôts, l'hiver je mets mon sandail, je biche, je fous rien. La vie, c'est comme la mer retirée au loin, comme le dit le calendrier, vraiment. Y aurait de quoi bien se marrer, petit, si elle revenait jamais partout. Parmi les algues et le sable, il y a un tout petit coin de table, toi, qui n'est pourtant pas méchant. Tu trous, des coquillages en fond. Je mange pas de poisson, vu que c'est lourd pour mes zigues. Je suis bien. Quand j'embarquais, j'avais mon litre de rhum. Je buvais. Ton cœur, c'est comme une vague indomptée qui plie sous le chagrin d'une fée qui fait une scène au vent du nord, qui sort avec une voile loin du port. Et là, dans un café d'horizon, tu bois quelques coups à ta façon et verse une ou deux larmes d'écume et plume, une voile de plus dans la brume. Quand je partirai, je mettrai mon De Falco de Mazette et ce bon dieu de merde qui me laisse pourrir à terre.
Vous savez, il y a des années, un jour, j'avais acheté, avec peu d'argent d'ailleurs, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais emprunté de l'argent un peu partout enfin, des gens qui pouvaient m'en prêter. J'avais acheté une île en Bretagne, entre Saint-Malo et Cancale. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis agenouillé, j'ai regardé cette maison, c'était fantastique. C'était les crépuscules qui s'épanouissaient, enfin. C'était extraordinaire. Et après, j'ai fait une chanson. Je comprends pas, les gens aiment beaucoup cette chanson. Elle n'est compréhensible que pour les gens qui ont connu ma vie à cette époque-là. Et, enfin, je peux vous raconter là-dessus parce que vraiment, il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont pas très belles. La mémoire est la mère.
La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on l'arrive au port. De justesse, il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme gercé, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes, comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonnades dans le port, fanfare les corps, pour le retour des camarades au parfum rare des salants, dans le poivre-feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurant sous les sunlights cassés liquides jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu, des granites, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc copain, où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sous mon maquillage rousse en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue. En musique morte, c'est fini, la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère
avec tes boutades, avec tes colères, avec ta poésie, tu as quantité d'amis, avec ta quantité de gens avec lesquels tu peux communiquer. Tu me disais tout à l'heure, Lancelot, c'est différent, c'est qu'en plus, c'est un frangin, des frangins, t'en as.
Oui, parce que Lancelot a été pour moi très chic. Un moment où j'avais besoin de lui, quoi. C'est tout. Tu comprends? Dans ce métier-là, on vous fait toujours des fleurs, on vous passe sur les postes périphériques ou à l'ORTF. En disant, on fait de la publicité, on vous paye jamais d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas. Nous ne sommes jamais payés quand nous faisons ça, vous comprenez? Bon, ben, on l'accepte parce que on est aussi, nous aussi, un petit peu à genoux, quand on n'est pas seul, tu comprends? Et Lancelot a été pour moi un moment, tu comprends, Lancelot, j'ai besoin de quelque chose, un jour, dans un journal dit de gauche, qui est dirigé par un type de droite. Vous avez reçu d'ailleurs à Europe numéro 1, et vous l'avez mis en boîte ce jour-là. Il s'appelle, il a un nom breton, je sais pas, c'est Monsieur Pirelli, il s'est marié au pneu, lui. Alors, il s'appelle Edern Ali. Ça me gêne d'ailleurs de retenir son nom. Ça me gêne de retenir le nom de certaines crapules, non? Comprenez? Bon.
Il a une grande faculté d'oubli, finalement.
Non, pas du tout. Ce type a appelé au meurtre dans son journal contre moi, dans le journal gauchiste qui était dirigé par Mme Beauvoir. Alors, comme j'aime bien me adresser aux bons hommes plutôt qu'aux bonnes femmes, j'écris à Sartre en lui disant, voilà, il se passe ça et ça et ça, pourquoi? Cette femme s'était laissée avoir. Et 15 jours après, Sartre m'a répondu en me disant, si c'est ce qui vous gêne, ça c'est que Mme de Beauvoir a démissionné de la direction de ce journal. Elle s'était fait avoir. Voilà. Alors j'ai dit à Lancelot, j'ai besoin que ça se sache. Et Lancelot m'a immédiatement ouvert son micro. Eh bien, c'est pas mal, moi je me rappelle ça.
Oui.
Vous avez un peu la truc. L'œil que tu fais. Je te propose un truc. On va écouter un disque là, tu vas réfléchir et tu vas faire un couplet, par exemple, sur l'émission Campus et trouver une musique. T'es d'accord?
Tu n'as jamais ça, mon Dieu.
Tu composes vite. Elle dit tout de suite que Campus t'inspire pas. Là, c'est autre chose, nous arrêtons immédiatement, on n'en parle plus, tu comprends pas, on passe à autre chose.
Moi, j'aime Campus. Écoute,
ça... Non, mais la première fois. Tu es d'accord.
Oui, je vais essayer, mais je crois que je n'arriverai pas. Mais Campus, j'aimais. La première fois que je t'ai entendu en Campus, je ne connaissais pas. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette émission? Qu'est-ce que c'est ce type? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va me passer? Voilà. Puis après, je n'écoutais plus parce que je n'avais pas l'occasion d'écouter. J'étais une période de ma vie où je ne pouvais pas écouter la radio. Et puis, ce qu'il aime dans Campus, je veux dire, c'est une chose toute petite, entre autres choses, quoi, évidemment. C'est la musique que tu mets le soir dans ton indicatif. Tout d'un coup, j'attends. J'attends toi. Et tu m'avais, je vais te refaire. Et j'attends cette féminine qui arrive merveilleusement. Qui dit, Campus.
Bon, alors tu essayes. Tu prends un papier, on va donner un crayon si tu veux faire un coup de prendre sur Campus.
D'accord. Il fera tout, toi.
Telle enfance par Léo Ferré qui est en train d'écrire, est en train de nous préparer, d'essayer du moins de préparer cette chanson sur Campus 5. Pendant ce temps-là, tu as travaillé, si on comptait que ça puisse être un travail, je crois pas que ça en est, ça sera pour toi. Alors je crois que tu as fait quelque chose, hein?
Oui.
Tu vas nous le faire écouter?
Oui, c'est.
D'accord, alors tu passes vers le piano et on dit... Rappelle-toi là-bas, chez les hippies, j'y étais, moi aussi, oh monsieur de Nanterre et de Campus.
C'est ce qui manque dans ce monde. Hein. C'est ce qui manque. L'intelligence. Hein. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.